Vous écoutez On lit pour vous.
Jeter sa fortune hydrique par les fenêtres. Un texte de Louis-Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir du 22 juillet 2026. En sous-titre, notre mine d'or bleu vient avec de super responsabilités qu'il serait temps qu'on assume. Dans un monde passé en faillite hydrique persistante, selon la formule du plus récent rapport de l'Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'Université des Nations Unies, le Québec fait figure d'oasis. Il est vrai qu'avec 3% des réserves en eau douce renouvelable de la planète, nous sommes assis sur une mine d'or bleu. Cette superpuissance vient toutefois avec de super responsabilités qu'il serait grand temps qu'on assume. Le Devoir publiait ce week-end dans son cahier Perspective une radiographie de notre rapport compliqué à notre or bleu. On s'y découvrait privilégié parmi les privilégiés et champion olympique de la piscine privée, mais aussi incorrigiblement dépensier et indécrottablement gaspilleur. Cette combinaison n'est pas à la hauteur de la richesse dont nous sommes les choyés dépositaires. Depuis 2009, le caractère collectif de nos ressources en eau est pourtant affirmé noir sur blanc dans une loi qui fait de l'État le gardien légitime de ce patrimoine commun au bénéfice des générations présentes et futures. Mais quand ça ruisselle de partout, on a tendance à voir le verre perpétuellement plein et à trinquer sans penser au lendemain. Le problème est tout à la fois individuel et collectif. Nous consommons au Québec 50% plus d'eau que le citoyen moyen du reste du Canada, lui-même pourtant placé très haut au panthéon des champions de la soif. Quant aux fuites, elles sont légion et, pour certaines, massives, résultat de décennies de négligence. On en trouve aux quatre coins du territoire, de Sainte-Thérèse à Chappais, en passant par Chibougamau ou Sainte-Sophie-de-Lévrard. C'est le cas aussi dans la métropole qui n'arrive pas à se débarrasser de l'étiquette de crank de la retenue hydrique qui lui colle au tuyau. En raison d'un risque imminent de bris d'une conduite d'eau sous l'avenue Atwater, la situation est devenue si fragile cet été que toute l'île est priée de réduire sa consommation. Vous l'ignoriez? Vous n'êtes pas les seuls. Le sentiment d'urgence, s'il existe, n'a qu'un petit filet de bois. Dans certaines municipalités, toutefois, le vernis a commencé à craquer. L'Union des municipalités du Québec estime que plus de 36 000 logements n'ont pas pu être construits l'an dernier parce que les municipalités visées étaient incapables de traiter davantage d'eau usée ou de fournir plus d'eau potable. C'est une douche froide. L'apparente gratuité de l'eau au Québec, ses coûts étant généralement inclus dans les impôts fonciers, fait hélas écran. Sans transparence, comment savoir qu'on déborde? Une facture d'eau séparée, comme cela se fait chez les voisins ontariens ou dans certains pays européens, permettrait de rendre la consommation mesurable et dosable. On a aussi des croûtes à manger en matière de gestion des eaux grises, douches, lessives et des eaux noires, toilettes. Le recyclage des eaux usées pour alimenter les toilettes, par exemple, est encore largement anecdotique dans le parc immobilier. Pourtant, il permet des économies allant jusqu'à 30, voire 40% de la consommation totale d'eau potable. Notre rapport à l'eau s'est largement défini par son abondance et son accessibilité, mais alors que nos étés se dérèglent et qu'on cherche à se rafraîchir, on découvre avec stupeur que les kilomètres d'eau libre qui nous entourent ont, pour l'immense majorité, été bradés aux plus offrants. Le Centre de recherche sur les territoires du Québec a calculé que plus de 98% des rives des lacs et rivières, où habite la majorité des Québécois, sont aujourd'hui inaccessibles. On les a lentement laissés filer au fil du temps, en négligeant de prévoir des droits d'accès ou des servitudes de passage. Dans Le Devoir, plus tôt ce mois-ci, une douzaine d'organisations et d'experts menées par Jacques Quentin posaient crûment la question. Déposséder une population de sa terre est une chose grave, la déposséder de son eau le serait-elle moins? La réponse est évidemment non. Alors que nos réserves en eau et en territoire vierge font l'envie des centres de données voraces, ne devrait-on pas insister auprès des parties pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont l'intention de faire pour préserver le caractère collectif et la bonne santé de nos ressources face à tous ces périls, course à l'intelligence artificielle comprise? Un seul centre peut consommer jusqu'à 19 millions de litres par jour, soit l'équivalent d'une ville de 10 000 à 50 000 habitants. Ça peut vite devenir vertigineux. Le temps de l'insouciance est terminé. Rendu à de telles extrémités, il est impossible d'imaginer des solutions à la pièce. Le Québec doit repenser le lien vital qui le relie à son or bleu, guidé par une transparence irréprochable et un esprit de préservation musclé, avec, à la clé, un désenclavement progressif de nos eaux libres au bénéfice du plus grand nombre. Ce faisant, il arrivera peut-être à couper l'herbe sous le pied à une tendance dangereuse bien installée chez nous et qui consiste à travailler pour socialiser le risque d'une main tout en privatisant le bien commun de l'autre. Fin de ce texte de Louis-Maude Rioux-Soucy, titré « Jeter sa fortune hydrique par les fenêtres », publié dans Le Devoir du 22 juillet 2026.
Une majorité de Canadiens ignorent toujours le blocage des nouvelles par Meta, un texte de Leonard Smith, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? 41% des utilisateurs de Facebook et 26% d'Instagram ignorent toujours que les médias ne peuvent plus publier sur ces plateformes. Meta a restreint les contenus des médias canadiens en réponse à la loi sur les nouvelles en ligne adoptée en juin 2023. Depuis le blocage, la consommation de nouvelles sur Instagram et Facebook a évolué avec une baisse de 11 millions de vues quotidiennes. Une majorité d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram ne savent toujours pas que les médias d'information ne peuvent plus publier de nouvelles sur ces plateformes près de 3 ans après l'instauration du blocage par Meta, montre un récent rapport. La mésinformation ne s'est pas pour autant généralisée sur ces réseaux sociaux, nuance des experts. La loi sur les nouvelles en ligne, adoptée en juin 2023, stipule que les géants du Web versent des compensations financières pour les contenus d'actualité publiés par les médias canadiens sur ces plateformes. En réponse à la loi, Meta a choisi de restreindre les contenus des médias canadiens sur Facebook et Instagram. Or, selon un rapport publié à la fin juin 2026 par l'Observatoire sur l'écosystème médiatique, OEM, de l'Université McGill, seuls 41% des utilisateurs de Facebook et 26% des utilisateurs d'Instagram savent que les médias d'information ne sont plus en mesure de diffuser du contenu sur ces plateformes. Le document se base sur les réponses fournies par 1518 répondants en ligne dans un sondage national. L'attention limitée portée à l'actualité et une perception élargie des nouvelles pourraient être à l'origine de la confusion sur le blocage, selon le rapport de l'OEM. En pratique, la mise en œuvre du blocage par Meta a été inégale, explique au Devoir Angus Bridgman, directeur de l'OEM et professeur adjoint à l'École de politique publique Max Bell de l'Université McGill. Certains médias, par exemple ceux liés à l'actualité sportive, n'ont pas été ciblés par Meta et demeurent accessibles sur ces plateformes. D'autres médias, ont enfin adopté des stratégies de contournement, comme la création de nouveaux comptes. Chez les utilisateurs, des messages privés et des captures d'écran d'articles permettent toujours la circulation informelle des contenus d'actualité, ce qui pourrait aussi expliquer la méconnaissance du blocage par plusieurs Canadiens, indique le rapport de l'OEM. Un déclin du niveau d'information? Reste qu'il est difficile d'établir si les gens s'informent mieux ou moins bien qu'auparavant. Parmi les utilisateurs de Facebook et d'Instagram au courant de la décision de Meta, 45% disent avoir commencé à consulter directement les sites d'actualité, tandis que 22% n'ont pas changé leurs habitudes médiatiques à la suite du blocage des nouvelles sur ces plateformes, selon les données de l'OEM. Les effets du blocage pourraient néanmoins être plus importants chez les personnes qui ne sont pas au courant de celui-ci. Les fils d'actualité de Facebook et d'Instagram pouvaient constituer, auparavant, des voies d'accès à l'information pour des individus qui ne la cherchaient pas activement, estime Alexandre Coutan, professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. On leur enlève un espace où des médias apparaissent beaucoup par des discussions, par des connexions et par les choix des algorithmes, explique-t-il. Selon un autre rapport de l'OEM, publié en 2024, une réduction de 11 millions de vues chaque jour pour les nouvelles publiées sur Facebook et Instagram était due au blocage. Cette estimation demeure toujours pertinente aujourd'hui, confirme au Devoir Angus Bridgman, même si, depuis, la manière de consommer l'actualité a fortement évolué, surtout depuis le blocage. De plus en plus de Canadiens obtiennent leurs informations politiques de la part d'influenceurs ou de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, constate le professeur. Pour Alexandre Coutan, la diversification des sources d'information n'est pas en soi inquiétante, plusieurs créateurs étant en mesure de produire des contenus de qualité et rigoureux. L'analyse ne doit toutefois pas se substituer, selon lui, à la matière première factuelle et au travail de documentation fourni par les médias traditionnels, dont les contenus sont dorénavant moins accessibles sur les plateformes de Meta. Une information moins sourcée, dont les barrières de vérification sont plus faibles, pourrait alors gagner du terrain sur ces plateformes, observe Angus Bridgman. Ce n'est pas nécessairement de la mésinformation. Mais ce n'est pas non plus une réalité riche et sourcée avec plusieurs références, dit-il à propos des contenus qui ont comblé l'espace autrefois occupé par les médias traditionnels. C'était « Une majorité de Canadiens ignorent toujours le blocage des nouvelles par Meta », un texte de Leonard Smith, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir.
Au cœur du powwow de Wendake. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir. Fin juin 2026, à Wendake. La communauté de la nation Wendat, enclavée en banlieue de Québec, se tenait le 59e powwow international. Qu'est-ce qu'un powwow au juste? Ni un spectacle folklorique, ni une fête populaire, le powwow est d'abord l'occasion pour les Premières Nations de socialiser dans un rapport de fraternité à la fois culturel et spirituel. Ce sont les danseurs qui suscitent le plus d'attention. ils ne portent pas des costumes, mais bien des regalia, soit des ensembles de vêtements, d'ornements et d'objets complexes confectionnés spécialement pour leurs porteurs. Les couleurs, les broderies, les plumes, les grelots, les mocassins, les ceintures ou les coiffes ne sont pas de simples accessoires décoratifs. Ils expriment une appartenance, l'adhésion à un clan, une expérience vivante, un héritage transmis de génération en génération. Chaque regalia raconte une histoire personnelle et familiale. Ces vêtements, fabriqués à la main, contribuent à l'identité de celui ou celle qui danse. Un certain nombre de jeunes participants portent sur leurs vêtements colorés des signets de papier plastifié qui montrent le visage d'un aïeul décédé récemment, dans une sorte de révérence aux morts frappantes. Selon Charles Bender, l'animateur de l'événement, la danse est comme une prière adressée aux uns et aux autres. Pendant longtemps, l'Église ne voulait pas qu'on danse, explique Carlo Gros-Louis, chef du patrimoine culturel et responsable de l'archéologie à Wendake. La danse, c'était pour elle une possession du démon qu'il fallait combattre. En fait, c'est la loi sur les Indiens d'Ottawa qui, à partir de 1876, a interdit ces manifestations traditionnelles, précise l'ethnologue Wendat Isabelle Picard. La loi a changé en 1951, sauf qu'il a fallu quelques années encore pour qu'on apprenne que la loi était changée. Les autorités fédérales considéraient ces rassemblements festifs comme des obstacles à l'assimilation. On parlait volontiers d'un problème indien qui devait se dissoudre dans l'assimilation. Les agents des affaires indiennes et les missionnaires surveillent alors les communautés, confisquent les objets cérémoniels et vont jusqu'à poursuivre les personnes qui maintiennent ces pratiques. Cette politique répressive s'inscrivait dans un vaste projet d'annihilation culturelle, rappelle le remarquable musée de Wendake, inauguré en 2008. À observer particulièrement dans ce musée, un morceau de l'ancien hôtel de l'église Notre-Dame de Lorette, 1730, situé non loin de là. En se plaçant bien bas devant cet artefact du temps de la Nouvelle-France, le visiteur pourra apprécier de remarquables scènes anciennes de la vie autochtone gravées dans le bois il y a plus de 2 siècles. Avant le début du nouveau millénaire, des powwows avaient déjà lieu à Wendake. On mangeait, on se rencontrait, il y avait des artisans, indique encore Isabelle Picard. Mais ce n'est qu'au début des années 2000, du moins à Wendake, que la danse est revenue en force pour devenir le cœur des powwows. Les participants viennent parfois de loin. Selina Kada Matazawagon est partie du lac Huron. Pour danser, vêtue de sa regalia, elle a fait la route depuis l'île de Manitoulin. Venue d'Ottawa, malgré de furieux maux de dos, Lee Harrigan ne manquerait pour rien au monde cet événement. La transmission. Originaire de la Première Nation d'Alderville, en Ontario, Bruce Smoke est l'une des figures marquantes de la transmission des traditions autochtones. « Ça fait 8 ans que je n'étais pas venu ici », dit celui qui a parcouru le Canada avec le Smoke Trail Cultural Group, un ensemble plusieurs fois récompensé. Il y a beaucoup de monde. Il manque même un peu de place, dit-il en esquissant un léger sourire. C'était la première participation de Tamara Picard à un powwow. Pour l'occasion, ses cousines la guidaient. Elle remercie Sushan Bacon de l'avoir aidée à fabriquer sa regalia après Kouchtouchkoue, Gros Louis, lui eut enseigné à danser. À ce powwow où se sont retrouvés environ 200 danseurs, les visiteurs allochtones étaient les bienvenus à condition de respecter certains usages. Aucune photographie, entre autres choses, n'est permise durant la grande entrée de tous les danseurs, précédée par des vétérans auxquels on rend honneur. Pour André Perkins, président de l'Association canadienne des vétérans autochtones, il ne saurait être question que le bâton d'aigle sacré puisse se retrouver photographié. L'aigle, explique-t-il, est l'animal par lequel se traduisent les liens puissants avec le Créateur. C'est lui qui transporte nos demandes. Pour ceux qui veulent absolument avoir une photo, j'ai un faux bâton d'aigle que je montre après la cérémonie. Là, pas de problème. Les vétérans qui participent à la grande entrée affichent bien en vue leur certificat de statut indien. Pourquoi? On a eu trop d'imposteurs, dit André Perkins. Au cœur du rassemblement se font entendre le rythme de grands tambours et la scansion des chants qui le soutiennent. Les danses en concours se succèdent selon différentes catégories. Traditionnelles, grass, jingle dress et smoke dance. Chacune possède son histoire, sa cadence, sa signification. C'était « Au cœur du power de Wendake », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir.
Solitaire, Windows 10 et mots de passe copier-coller, un texte d'Alain McKenna, paru le 15 juillet 2026 dans La Presse. Craig Chatfield, un lecteur, demande « J'ai le jeu solitaire sur mon téléphone qui vient avec son lot de publicités, dont celle de produits et d'entreprises du Québec, y compris des banques. Comment et pourquoi est-ce le cas? La présence d'enseignes locales dans un jeu de solitaire ne veut pas dire qu'il y a un partenariat direct entre le créateur de l'application et les annonceurs québécois. C'est causé par la mécanique automatisée de la publicité numérique gérée par les algorithmes des réseaux publicitaires. Le développeur du jeu vend probablement les espaces vides dans son application aux plateformes publicitaires d'Apple, de Google ou de Meta. De leur côté, les banques et les entreprises achètent un nombre d'affichages de leur publicité en ciblant une clientèle précise, par exemple les résidents du Québec. L'algorithme fait le pont instantanément entre votre emplacement géographique et une publicité locale, comme celle de Desjardins ou d'un commerce local, plutôt que celle d'une banque européenne. Les grandes institutions possèdent des critères stricts pour protéger leur image de marque et vont interdire la diffusion de leur logo sur certaines plateformes, comme celles qui affichent du contenu violent, haineux ou pornographique. Un simple jeu de solitaire représente toutefois un environnement neutre, sûr et familial pour une banque. L'entreprise accepte donc de laisser les algorithmes choisir l'application finale, pourvu que le joueur au bout de l'écran corresponde au profil recherché. Christine Venn, une lectrice, demande « Mon PC fonctionne présentement sur Windows 10. Devrais-je le faire migrer vers Windows 11? » La fin du soutien officiel de Windows 10 remonte à l'automne 2025. Depuis, Microsoft ne déploie plus de correctifs de sécurité gratuits pour ce système. Utiliser un ordinateur sans protection branchée à l'Internet expose vos données personnelles aux aléas du Web. Migrer vers Windows 11 n'est pas une simple option esthétique, c'est une nécessité pour renforcer la sécurité de votre PC. Bonne nouvelle pour votre portefeuille, cette transition demeure gratuite si vous possédez déjà une licence valide de Windows 10. La méthode la plus simple pour sauter le pas requiert une visite dans vos réglages. Ouvrez les paramètres de votre PC, puis sélectionnez l'option « Mise à jour et sécurité » et vérifiez les mises à jour disponibles. Si les composants physiques de votre machine respectent les critères de Microsoft, une grande bannière vous invitera à télécharger et installer Windows 11 en un seul clic. Si votre ordinateur a un processeur trop vieux, des outils logiciels gratuits, comme le créateur de disques de démarrage Rufus, permettent de contourner les blocages techniques et d'installer le nouveau système sans débourser un sou. Sauvegardez simplement vos fichiers importants avant de démarrer la manœuvre. Diane Côté, une lectrice, demande « Est-ce sûr de copier-coller un mot de passe sur un site web? » Cette habitude est plutôt sûre et même fortement recommandée par les experts en cybersécurité. Le copier-coller protège vos accès informatiques contre une menace sous-estimée, les enregistreurs de frappe ou keyloggers. Ces logiciels espions interceptent chaque touche de votre clavier sur laquelle vous appuyez physiquement lorsque vous transmettez un mot de passe complexe. En un seul clic, ces espions ne capturent rien du tout. Cette méthode facilite aussi le recours à des mots de passe plus longs et impossibles à retenir, générés par un gestionnaire de mots de passe, plutôt que des codes simples et faciles à deviner. La manœuvre comporte quand même ses limites. Lorsque vous faites une copie, la donnée transite temporairement par la mémoire de votre appareil, le fameux presse-papier, qui peut être lu par un site tiers ou une application malveillante qui aurait infecté votre machine ou par l'utilisateur suivant de votre PC, qui n'a qu'à coller son contenu dans un nouveau document. Éliminez les risques avec un bon gestionnaire de mots de passe. Il va effacer automatiquement la mémoire du presse-papier après quelques secondes et vous évitera la plupart du temps d'avoir à copier-coller vos identifiants. C'était Solitaire, Windows 10 et mots de passe copier-coller, un texte d'Alain McKenna, paru le 15 juillet 2026 dans la presse.